Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Éclaireurs. Eh bien, salut à tous. Donc voilà, c'est une nouvelle saison des Éclaireurs, sans péremptoire, puisque les plus assidus d'entre vous le savent déjà, péremptoire nous a abandonnés pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais bon, grâce à un petit concours de circonstances, il m'a gentiment laissé les clés de l'émission. Donc il n'y aura pas de changement majeur, donc le concept reste absolument le même. J'aurai à chaque fois 3 ou 4 invités qui viendront nous faire part de leur regard sur une œuvre, un cours artistique ou musical, une expo, que sais-je encore. Et donc voilà, c'est reparti, c'est la troisième saison, j'ai fait le compte. Le rythme sera a priori mensuel, et puis ben, on se retrouve aujourd'hui pour les éclairages numéro 21, avec 4 invités soigneusement triés sur le volet pour lancer ce reboot. Donc le premier, naturellement, qui me semblait le plus judicieux d'inviter, c'était Péremptoire.
Oui, bonsoir à tous, bienvenue dans les éclaireurs. Alors, avec moi ce soir...
Non.
Alors, vieux réflexe.
Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être invité à son propre podcast?
Ah, écoute, c'est très très bizarre, mais je vais m'y faire. Hein. Je pense que tu vas bien reprendre le flambeau.
J'espère. Je suis petit peu tendue, mais ça va aller. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de me lancer là-dedans, en tout cas.
Oui, c'est marrant.
Le deuxième invité, qui était lui aussi assez évident, ben, c'est Randall Flagg.
C'est moi, c'est Randall Flagg.
Randall Flagg, c'était l'invité le plus récurrent, c'était presque un co-animateur en fait. Voilà.
Un vieux briscard.
Un vieux briscard, ouais. Et puis, on a aussi Zafeu.
Bonsoir.
Zafeu, je l'ai invité parce que c'est grâce à lui que j'ai repris le podcast, en fait. Il a fait un jour, au moment où Péremptoire a annoncé qu'il arrêtait les éclaireurs, il a proposé que quelqu'un le reprenne, et du coup, j'ai foncé dans la porte ouverte. Alors peut-être que toi, tu voulais le reprendre, je ne sais pas.
Elle lui a piqué le
podcast. Je t'ai piqué le podcast.
Ah non, pas du tout.
Bon, bah écoute, en tout cas, merci. Donc voilà, c'est grâce à toi que j'ai repris les rênes du podcast, sans jeu de mots. Bref.
Pas de ça ici.
Pas de ça ici. Et puis, quatrième invité, du coup, c'est un petit nouveau qui est jamais venu. Je sais qu'il avait bien envie de faire du podcast et puis il a des choses à nous dire, c'est Steuf.
Ouais. Bonsoir.
Voilà. Et puis donc, vous arrivez tous les quatre avec des sujets qui m'ont vraiment réjoui. J'étais super contente quand vous me les avez annoncés. Un peu au dernier moment, mais bon, ça... Je suis désolée, je vous ai un peu pris au dépourvu.
C'était il y a plus de 24 heures.
Voilà, c'était de la faute de Péremptoire. Mais parce que...
Voilà, c'est ça.
Je tenais absolument à l'avoir pour la première, donc... Donc voilà. Alors, les sujets ce soir, Péremptoire, de quoi tu vas nous parler?
Moi, je vais vous parler de la mini-série qui s'appelle The Lost Room.
Ah, excellent.
D'accord. Et toi, Randall Flagg?
Moi, je vais vous parler d'un jeu, un RPG qui s'appelle Divinity Original Sin.
Comme par là.
Forcément. Et Zafeu?
Eh ben moi, ce soir, j'ai décidé de vous parler des origines du chocolat.
Ah, du sujet chocolat. Gastronomie. Et Steph?
Eh ben moi j'ai un autre jeu, c'est Revolution 60 sur iOS, voilà.
Ah, je connais pas.
Ben voilà. Bon, et on va lancer le premier sujet alors.
Allons-y.
C'est parti.
Parti.
Et oui. Constaté, j'ai changé le générique, mais j'ai gardé les jingles quand même, parce que c'est la signature des éclaireurs.
Ça va plaire à certains, ça.
Oui, mais tant mieux. Tant mieux, non, je veux pas tout changer, je veux pas tout bousculer.
Oh, t'aurais pu, hein.
Non, mais ça me fait plaisir, parce que moi, je l'aime bien.
Ah, c'est plaisir.
Voilà, alors qu'est-ce que c'était ce jingle, du coup?
Alors, c'était le générique de ce dont je vais parler, The Lost Room.
Très bon générique.
The Lost Room, bon, je commence par quelques bricoles hein, rapidement. C'est une mini-série américaine, c'est fantastique. C'était en 6 épisodes de 52 minutes, ou aux États-Unis, je crois que c'était en 3 épisodes d'une heure et demie, enfin, c'est kiff-kiff quoi. C'était diffusé en 2006 aux États-Unis, donc ça fait déjà 8 ans, et en France c'était un an plus tard, c'était en 2007. Donc je sais pas si vous avez vu la série déjà.
Oui, tout à fait.
Ouais, tout le monde a vu.
Vraiment, pas moi.
À l'époque.
Ah bah tu vas voir. C'est assez dingue. Mais j'ai essayé de raconter l'histoire du mieux que je peux, parce que c'est pas forcément facile. On suit Joe Miller, c'est un inspecteur de police. Il vit seul avec sa fille, et au cours d'une enquête, il poursuit un suspect, mais qui arrête pas de se volatiliser mystérieusement et sans comprendre pourquoi. Et donc, lorsque le suspect en question est retrouvé... J'essaie de pas trop spoiler, hein. Quand le suspect en question est retrouvé par des méchants, il meurt, il meurt, et il remet à Joe Miller une clé de motel. Et donc c'est là que tout va commencer, parce que, ça va être un peu dur à expliquer, cette clé a un pouvoir unique, c'est que peu importe où on est dans le monde, quand on ouvre une porte avec, on accède à une chambre d'un vieux motel, le Sunshine Motel. Et quand on veut ressortir de cette chambre de motel, il suffit de penser à n'importe quel endroit sur Terre pour y arriver. C'est un peu comme une salle transitoire pour se téléporter d'un endroit à l'autre, si vous voulez, ouais. Si vous comprenez. C'est clair jusque-là.
Jusque-là, tout à fait. On est d'accord.
Et donc, au fur et à mesure de la série, on découvre qu'il y a aussi une centaine d'autres objets, comme la clé à travers le monde, qui ont aussi des pouvoirs. Donc certains très utiles, d'autres pas du tout. Par exemple, il y a un pen qui permet d'arrêter le temps une dizaine de secondes. Ça, c'est très utile.
J'aime beaucoup.
Ouais, et une montre qui permet de cuire des œufs. C'est-à-dire, quand on met l'œuf au milieu du bracelet, ça fait un œuf dur.
Genre le truc super indispensable.
C'est pas très utile, sauf si on aime bien les deux. Mais...
Même l'Apple voilà. Watch le fait pas.
Non, ouais. Non, non. Je peux confirmer.
Et donc en fait, tous ces objets viennent à l'origine de la même chambre de motel. Et on découvre aussi qu'il y a plein d'organisations secrètes qui se battent pour récupérer ces objets. Et puis il y a plein de subtilités qu'on découvre comme ça. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé avec cette chambre. Bref, c'est assez compliqué. Mais bon, une série comme ça, c'est obligé que ça me plaise, parce qu'on sent qu'il y a un gros potentiel mythologique, je vais parler de Lost après, mais c'est pas anodin, on sent qu'il y a un gros potentiel mythologique, l'idée de base, elle est vraiment géniale, j'avais jamais vu ça, ce genre, ce concept des artefacts, peut-être dans d'autres séries que je connais pas encore.
Bah, le concept de la porte qu'on ouvre et qui va là où on a envie, c'est un truc un peu connu, mais tout le reste,
oui,
non,
oui.
Pas vraiment.
Ouais, le concept d'avoir des objets du quotidien comme ça, mais
ouais, voilà.
C'est vrai que c'était intéressant. Après, il y a plein de questions qui s'ajoutent, on reçoit des petites informations au compte-gouttes, ça me plaît bien, ouais. Et donc on a beaucoup de questions qu'on se pose sur l'origine des objets, leur effet, la chambre du motel, c'est vraiment très très bien foutu. Mais le casting est pas mal non plus. Alors, je sais pas si vous souvenez un peu du casting, Peter Krause qui était dans Six Feet Under, bon ça j'ai pas trop vu Six Feet Under, donc je peux pas trop en parler.
Très, très bien.
Ah, il était charismatique dans Six Feet Under, hein. C'était un personnage très important. Hein.
On a Juliana Margulies, alors, qui était dans Urgence.
Carole Attaway
qui a pas fait grand-chose à part des films pas terribles, il me semble. On a Peter Jacobson, c'était une des nouvelles recrues dans Doctor House, dans les dernières saisons. Et Elle Fanning aussi,
ouais.
Qui était encore toute petite.
Petite
minute,
ouais.
Je vois pas qui c'est.
Quoi ?
Elle Fanning ?
Et les Fanning, ouais. C'est pas celle qui joue dans Super 8
Si, c'est ça. Ouais, et ouais, elle a aussi sa frangine qui est voilà. Comédienne. Elles ont Dakota. Sensiblement le même âge. Voilà, Dakota.
Et en préparant le sujet, je me suis aperçu que la série, en fait, elle a eu des critiques, mais vraiment très très moyennes. Enfin, sur Metacritic, ça doit être à 50%. Donc c'est bien, mais pas top, comme on dit.
Ah non, c'est vraiment pas top.
C'est vraiment étonnant, ouais.
Et en fait... On reprochait beaucoup l'histoire brouillonne, l'histoire trop dense, des personnages pas très étoffés. Et pour prendre la défense de la série, je précisais quand même qu'il n'y a eu que 6 épisodes, il n'y a pas eu de suite. Ouais. Bon, je suis un peu frustré de ne pas avoir eu de suite, mais l'intrigue brouillonne aussi, c'est une mini-série, donc il y a plein d'éléments, des petites subtilités.
Il se passe beaucoup de choses, et c'est vrai que les personnages sont pas spécialement creusés, mais en si peu de temps.
Bah voilà, il y a plein de petites choses qui se sont mises en place, mais bon, après, je peux comprendre qu'on fasse ça brouillon, mais vu le potentiel des idées et le format, il fallait. Bah, ils ont dit beaucoup de choses en peu de temps, donc c'est déjà pas mal, quoi. Et il faut savoir, en fait, que la série se termine sur une fin ouverte.
Oui, mais il y a quand même une fin, mais...
Ouais, ah ouais, mais bon, voilà.
Ouais, on aurait pu aller tellement plus loin.
Ouais, voilà.
C'est ça laissait quand même présager des choses.
Mais, une autre... J'aurais pas demandé une saison de 22 épisodes, parce que clairement, je pense que ça aurait été trop, mais une deuxième saison de 6 épisodes, je pense qu'il y avait encore de quoi faire, avec le gros potentiel d'objets qu'il y avait et tout. Mais bon... Ils ont fait une fin ouverte, c'était sur Sci-Fi, et Sci-Fi à l'époque je crois qu'ils avaient une habitude de faire toujours des mini-séries comme ça, ils attendaient la fin pour voir s'ils continuaient. Alors Battlestar Galactica je crois que c'était pas vraiment le même...
Ouais, ils ont fait le même système en tout cas, ouais.
Ouais, c'était un petit peu pareil. Et donc ils voulaient surtout attendre les chiffres d'audience comme d'habitude avant de réfléchir à une suite, quoi. Et bah, ça me rappelait aussi, bon, John Doe, c'est, ça n'a rien à voir, mais bon, là aussi, tu
Ah
vois, la
oui.
série s'est arrêtée un petit peu n'importe
J'ai pas
où.
vraiment suivi ça.
Ah, c'est, y avait, le cliffhanger de fin était
Ah
super,
oui, la
quoi.
fin de John Doe.
J'étais un petit peu dégoûté. C'était une bonne série aussi. Et en fait, comment j'ai découvert la série? C'était sur M6 à l'époque, je sais pas si vous vous en souvenez. C'était pas la trilogie du samedi? Non. Ah non, je crois
Cette série-là, je sais
pas.
pas.
Ouais, non, ça
John Doe,
m'étonne.
oui, mais.
C'était sur M6, il n'y avait aucune promo à l'époque, alors j'étais arrivé complètement au hasard dessus, parce que je me rappelle aussi, parce que j'étais à fond dans Lost à l'époque, et moi, dès qu'il y a des
Des
mystères
mystères,
mystérieux, trucs comme ça,
des
la grosse
conspirations.
mythologie qui se développe, bah, dès qu'il y a la mythologie, des mystères comme ça, moi, je prends tout de suite, quoi.
Mais justement, moi, je sais, quand je l'avais découverte, c'est parce que je cherchais quelque chose pour me combler mon manque de Lost, en fait. Et
Ah
c'est
oui,
comme ça qu'on me
c'est
l'avait
terrible, hein, la
conseillé.
fin de Lost. Hein.
Ouais.
Ah. Et donc, pour terminer aussi, en fait, ils avaient voulu faire une suite. Alors, il y a depuis, ça fait peut-être 8 ans qu'il y a plein de rumeurs de suite, hein, comme pour beaucoup de séries.
Voilà.
Voilà, mais des trucs, une news, et puis 2 ans, on n'en parle plus, et puis encore une news, comme d'habitude. Et en fait, ils voulaient faire la suite en comics.
Ouais, mais ça,
C'était
ils le
Red
disent à
Five.
chaque fois.
Ah oui, c'est pour toutes les séries, de
Grand
toute façon.
classique.
C'était Red 5 Comics, je ne connais pas trop, mais
Non.
ils avaient annoncé ça en disant en 2010, en 2010, ouais, on est à fond dessus, vous allez la voir super vite. Après, en 2012, ils ont dit, bon, ça arrive, mais il va nous falloir un petit peu plus de temps, soyez patients, tout ça. Et en 2013, ils ont fait, bon, on va faire une petite pause, mais s'il y a du changement, on vous prévient. Alors là, tout de suite,
C'est mort.
ah ouais, c'est mort. Mais voilà, ça me semblait important de parler de cette série, parce que au final, elle est passée quasiment inaperçue, j'ai l'impression.
Alors,
Oui,
j'ai
moi
suivi
aussi j'ai
ça avec.
l'impression, parce que quand tu en as parlé, que tu m'as dit que tu allais faire ton sujet là-dessus, enfin j'ai eu l'impression de la remonter du fond des âges, quoi.
Ah oui. Moi, quand même, je me rappelle qu'à l'époque, enfin, tous les gens que je connaissais avaient vachement suivi ça,
Ouais.
mais c'est
J'étais
retombé
pas.
comme un aussi vite
Ah,
que c'est
quand même.
venu, quoi.
Ouais, et c'est bien dommage, je pense qu'il y aurait mérité d'avoir une suite ou un préquel, un séquel, ou peu importe, même avec un autre personnage, je sais pas, mais au moins reprendre ce concept-là qui était super intéressant. Donc j'espère que vous allez regarder maintenant, vous n'avez plus de.
Ceux qui n'ont pas vu, oui, en tout cas.
Ah,
Plus,
surtout
c'est
pour.
6 épisodes,
Voilà,
donc
ça, parce
c'est
qu'en fait,
pas.
c'est mon gros défaut, c'est que quand je prends des séries en retard, je suis toujours débordé par le nombre d'épisodes. Donc là, pour une fois, je n'allais
Ouais,
pas
c'est
avoir grand
6 fois
chose à
42
regarder.
minutes ou
Ah
c'était
oui,
3 fois
ça vaut
1h30.
vraiment
Mais
le coup.
ça me dit bien d'essayer ça. Ouais.
Ouais,
Ouais, bah ça
vraiment,
vaut vraiment.
je recommande aussi. Hein, c'est.
J'aime bien ce
Et on
style
n'a pas eu de série
de.
équivalente en termes de concept depuis cette époque,
Tu veux
j'ai
dire des
l'impression.
concepts, des trucs high concept comme ça
Ouais, voilà.
oui. Ouais, bon,
C'est
moi,
bon.
c'est vraiment quelque chose qui me manque et actuellement encore où je n'ai pas cette satisfaction-là dans les séries fantastiques, en
C'est vrai.
fait. Il y avait eu un peu une tentative, puis ils n'avaient pas continué la série, comment elle s'appelait?
Flash
Flash
Forward.
Forward, voilà.
Flash
Bah, c'était
Forward.
du J.J. Abrams aussi, donc
Ouais.
forcément.
Ouais, mais
C'était
elle était un petit peu ratée,
un
donc.
petit peu bancal, mais
Ouais.
j'aimais beaucoup le concept.
L'idée de départ était très bonne.
Il y avait eu les
Ouais.
4400
Les
aussi. Ouais,
4400,
c'était
très
bien.
très bonne première
C'était
saison.
très
C'est bien,
ça.
mais
Après,
après,
ça, j'ai pas
et c'est
suivi,
dégénéré petit à petit.
mais. Ouais.
N'importe quoi.
Mais toutes ces séries-là, qu'il y avait entre eux, je sais pas, 2002 et on va
Mais
dire
remarque,
en
Lost a
large
fait pareil. Il a
2008.
des saisons complètement
Ouais.
ratées au milieu. Hein.
Ah, je suis d'accord, mais on critique pas Lost.
J'ai
Si,
du
on
mal à
critique Lost, si
critiquer
on veut.
Lost quand même, parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a donné autant de tension.
Et de ouais, un nouvel épisode.
Ouais, c'est ça, c'est
Voilà.
ça.
C'est ça.
C'est vrai.
Et voilà, ça me semblait important d'en parler de
Oui,
cette série.
c'est vraiment c'est un très bon choix.
Ah, je savais que ça
Je...
te plaît.
Bon, ben, Randall, Flag, es-tu
C'était
prêt?
moi!
C'est
Je
toi?
suis ready.
Alors, donc, tu vas nous parler de Divinity Original Sin.
Tout à fait.
What the fuck?
En fait,
J'ai pas compris.
non, je cherchais une musique pour illustrer le jingle et je suis tombée sur la dans l'OST du jeu sur
Alors, petit morceau
ce morceau qui correspond aux scènes d'auberge en fait.
Ah,
Hein?
bah oui, je me rappelle pas qu'il y avait
J'ai
cette
trouvé
musique dans
ça.
l'auberge.
J'ai trouvé
Pourtant,
ça.
on y traîne hein, dans l'auberge.
Comment?
Pourtant, on y traîne longtemps dans
Oui, ben
l'auberge, mais je l'avais pas
voilà.
percuté.
J'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà pourquoi j'ai choisi ça, en fait. Ouais, je t'en
Ok.
prie.
Alors, Divinity Original Sin, ah ben alors, c'est une réalisation d'un studio qui s'appelle Larian Studio. C'est des Belges d'ailleurs, je crois, je me souviens bien. Ça fait en fait depuis 2002 qu'ils sont dans le même univers qu'ils ont créé avec un jeu qui s'appelait Divine Divinity.
Ouais, auquel j'ai
Et ils ont
joué.
toujours cherché à fabriquer le véritable RPG qu'ils avaient envie de faire, et chaque fois ils ont été bridés par leur éditeur à l'époque, qui transformait un tout petit peu le truc, le simplifiait, le transformait en hack and slash et en action RPG plutôt qu'en bon vieux RPG des familles. Donc ils ont fait plusieurs jeux, certains étaient très bons, certains moins bien, et au bout d'un moment ils en ont eu marre, et ils se sont lancés à faire un Kickstarter pour financer le jeu qu'ils avaient envie de développer depuis longtemps.
Ah, j'avais pas cette notion-là qu'il avait été kickstarté.
Eh oui, il était kickstarté. Ils avaient demandé 400 000 dollars, en fait. Ils sont montés à plus d'un million.
D'accord.
Ah, oui. Donc, un gros, gros succès qui leur fait prendre un peu de retard, d'ailleurs, dans le développement. Parce que les Kickstarters participaient aussi, plus ou moins, au développement dans des idées, ce qui peut être super dangereux pour un jeu.
Ouais.
Mais là, ça s'est super bien passé. Et le jeu a fini par sortir il y a quoi ? Il y a 6 mois, là, à peu près. Quelques mois avant l'été. Alors, c'est un RPG. Alors, souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez du moins de Baldur's Gate ?
Oui !
Mais Baldur's Gate, dieu des jeux de RPG, on est d'accord.
Oui.
De toute façon, vous n'avez pas le droit de dire le contraire.
D'accord.
On ne le dira pas.
Donc, ouais, c'est vraiment l'inspiration première. Alors, une des grosses différences, c'est qu'il est prévu pour être joué à deux en coop, en coopératif ou en solo, complètement indépendant. Du coup, quand tu démarres tout seul, tu crées quoi qu'il arrive de personnage.
D'accord.
Et si jamais tu joues à deux, chacun en crée un, et voilà. Et comme à la grande époque, tu crées ton personnage de A à Z, tu choisis un peu toutes ses caractéristiques à l'ancienne, à part son look, où il n'y a pas grand-chose de choix, mais on s'en fout, parce qu'on se balade toujours avec des casques, et des armures. Et le système de jeu va travailler sur des caractéristiques et des talents, assez classiques, hein, un système de progression, par contre, du coup, beaucoup moins lié... par rapport à certains jeux, aux classes de départ, comme dans Baldur's Gate, quand t'es guerrier, t'es guerrier.
Ah ouais.
Si tu veux devenir biclassé, ça va devenir très compliqué. Là, tu prends quand même plus ou moins un départ soit guerrier, soit archer, soit voleur, soit mage élémentaire qui va permettre soit de spécialiser dans le feu, la glace, l'air, la terre, la magie. Vous allez voir, c'est très important ces éléments. Et vous allez choisir quelques caractéristiques. Alors, pour situer l'univers, on est dans du Heroic Fantasy le plus classique de chez classique. Ce serait presque un défaut, mais comme le jeu raconte très bien son histoire, finalement, ça va bien. Alors l'histoire, c'est les deux persos que vous incarnez, ce sont des Source Hunters. Parce que dans ce monde, une ancienne magie très puissante, la Source, a été bannie il y a très longtemps. C'était considéré un peu comme on considérerait nous la magie noire. Et toute personne qui la pratique sera zigouillée. Et donc vous faites partie de l'équipe de zigouilleurs officiels. Donc, on vous a appelé pour enquêter sur un meurtre dans une ville. Donc, vous arrivez sur la plage, pas loin de la ville. Il va falloir enquêter sur le meurtre de très suspect de quelqu'un qui semble être l'offre d'un sourcier. Donc, d'un de ces magiciens de la magie noire. Et c'est parti. Alors, le jeu se présente un peu dans une vue 3D isométrique à la Baldur's Gate. Enfin, Baldur's Gate est plus vu du dessus, mais enfin, vous voyez un peu l'esprit.
Ouais.
Sauf que c'est en vrai 3D, bien sûr. Le moteur de jeu est d'ailleurs assez bien fait et pas trop trop gourmand. C'est assez joli. Un petit tour dans l'inventaire, vous allez retrouver exactement ce que vous aviez aimé dans Baldur's Gate. C'est tout à fait la même chose à l'ancienne, avec quelques défauts. Par exemple, l'inventaire devient très rapidement un énorme souk. Vous en avez de partout.
Est-ce qu'il y a une science de l'inventaire comme dans Diablo ?
Qu'est-ce que t'appelles la science de l'inventaire ?
Bah, tout ranger.
Ah, non, chaque...
La case près pour optimiser...
Non, chaque objet prend la même case. Donc voilà. Seulement, tu te retrouves avec un million d'objets. Parce que, autant, ils ont rajouté un seul aspect qui rappelle un peu les MMO ou même les hack and slash, c'est que tu as du loot aléatoire parfois. Donc des armes bleues, des armes rares, des armes machin. Et ça prend une place folle dans ton inventaire. Je sais pas si c'était bien nécessaire dans un RPG... à l'ancienne. C'est un peu un des rares défauts que je trouvais. On peut aussi crafter de l'équipement.
Alors que dans Minecraft, hein, ça passe. Alors que dans Minecraft, ça passe les inventaires.
Ouais, même pas, il n'y a pas assez de place dans l'inventaire Minecraft.
Ah non, il n'y a pas assez de place, non.
D'ailleurs, en parlant de craft, on peut crafter aussi pas mal d'équipements. J'ai pas trop, amélioré ces points-là de mes persos, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais c'est pas extraordinaire, mais c'est marrant. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à dialoguer. Peut-être la moitié du jeu à dialoguer, à chercher, à enquêter vraiment, et la moitié du jeu à vous battre. Et alors là, les combats, accrochez-vous. En mode normal, ça pique un peu. Surtout au départ où il y a deux persos, on va rapidement s'étoffer et se retrouver à 4 maximum. D'ailleurs, revenons sur le truc que je vous disais qu'on peut jouer à deux. Quand vous jouez à deux, vous dirigez un des personnages, et vous pouvez séparer votre groupe comme bon vous semble. Vous pouvez soit partir tout seul, soit partir avec un des personnages que vous avez recruté, soit avec les deux, et l'autre se retrouve tout seul, etc. Chacun va faire son dialogue de son côté, et peut se regrouper quand il veut. Ça doit être assez marrant jouer.
Ça c'est pas mal, ouais, de pouvoir se séparer.
Voilà.
Et d'avancer comme ça de manière autonome.
Ouais, puis tu peux complètement te séparer, aller complètement ailleurs, il n'y a pas de souci. Après, il y a quelques petits aménagements de téléportation, mais pas. Enfin, c'est pas excessif, donc ça permet de se retrouver un peu plus facilement. Parlons déjà des dialogues. Alors, un truc qui est marrant, c'est qu'ils ont prévu le dialogue pour être joué à deux, par exemple. Vous allez croiser par exemple un villageois qui est en train de piquer quelque chose à un commerçant. Vous avez deux solutions, soit vous le laissez partir, soit vous le dénoncez. Et imaginons que vous jouez à deux, vous allez pouvoir vous battre sur la solution adoptée. Par des dialogues du jeu, par un QCM dans le jeu, enfin des dialogues par choix multiple comme d'habitude, vous allez pouvoir choisir non, mais il faut le laisser partir et tout. Et donc à la fin, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par les lignes de dialogue, ça joue à Shifumi. c'est bon. Et je crois que tu choisis la solution. Et là où c'est un petit peu schizophrénique, c'est que quand tu joues tout seul, heureusement l'option est débrayable, mais par défaut elle y est, tu fais ce dialogue entre tes deux persos.
tu joues
chacun des persos en choisissant. Si tu peux te la jouer roleplay à mort en disant lui il va être d'accord et lui non.
Le bon flic.
Voilà, bon flic et méchant.
C'est ça.
Et toutes les décisions et trucs comme ça, il y a des décisions relativement importantes qui peuvent faire mourir des PNJ. Il n'y a pas une seule solution à chaque problème. Toutes les énigmes que vous allez voir ont... Par exemple, vous avez la possibilité à un moment donné de développer le pouvoir animal, de parler avec les animaux, qui vont permettre de résoudre des enquêtes. Mais c'est complètement pas obligatoire. Vous allez avoir plein de cartes quêtes secondaires liées à ça. Vous allez pouvoir rencontrer un chat qui s'appelle Sam l'Insubmersible. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de...
Mais oui, c'est l'histoire de...
Exactement ça. Ils ont fait plein de petits easter eggs comme ça, sympa. Et il va falloir l'aider, lui aussi. Il y a un petit côté au second degré comme ça, assez souvent dans les quêtes. Alors, voilà, donc les enquêtes, le gros défaut, c'est qu'on va parfois avoir besoin d'objets à combiner qu'on ne retrouve plus dans son équipement monstrueusement bordélique. Et en plus... À vous de vous souvenir de ce qu'on vous a dit hein, pour les dialogues, comment gérer les équipements, parce que si vous notez rien, il y a quand même un rappel des quêtes, mais il faut s'accrocher, on est vraiment en route à l'ancienne. Ça c'est assez agréable, mais parfois, retrouver un parchemin parmi 150 parchemins qui se ressemblent tous, où il faut passer à son recours à la bulle d'aide.
Récemment, j'avais rejoué, encore plus vieux que Baldur's Gate, j'avais rejoué à Ultima 7.
Ah oui.
alors en plus là il y avait des bugs, donc des objets qui disparaissaient de l'inventaire, donc
ça rend le truc un peu plus compliqué.
mais effectivement ouais, c'était assez route de revenir à ça.
Alors ils en seront pas au point d'Ultima 7 que les objets disparaissent pas trop, mais voilà quoi, il faut quand même se méfier. Par exemple, t'as un objet clé d'une quête, si tu le poses quelque part, tu l'as posé quelque part hein. Il disparaîtra pas, mais t'as intérêt à le retrouver, et comme les cartes sont immenses et ouvertes hein, ça, c'est... le monde est complètement ouvert, mais vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a des monstres, à peine ils vous touchent, ils vous massacrent. Donc, d'ailleurs, on va voir comment se passent les combats. Les combats se passent au tour par tour, donc vous avez des points d'action, dépendant de vos caractéristiques. Ces points d'action, vous allez vous utiliser pour vous déplacer au tour par tour chacun. Soit pour vous déplacer, donc, soit pour lancer un sort, ou un coup de latte si vous avez un guerrier, soit faire une action, boire une potion, machin comme ça, soit vous équiper d'une épée différente, ou un truc comme ça, classique. Et... Ce qui est marrant, c'est les sorts. Les sorts sont basés, je vous le disais tout à l'heure, sur les éléments. Plus la magie qui est considérée comme un élément, si j'ose dire. Et par exemple, imaginez, vous avez des zombies devant vous, qui vous attaquent, et ils sont sur une flaque d'eau. Alors, deux solutions. Si vous jetez un sort de glace, ça va leur faire mal avec du gel. Enfin, ça va légèrement leur faire mal, mais surtout, ça va geler l'eau sur laquelle ils sont. Et donc, ils risquent de se péter la gueule. Par contre, si vous décidez de jeter un sort de feu, l'eau va s'évaporer et faire un brouillard, ils y verront plus rien. Ou alors, vous jetez un sort d'éclair. Et à ce moment-là, ça va les électrocuter. Ouais. Et une combinaison, par exemple, que vous allez trouver, vous allez faire pleuvoir avec un de vos persos, et un autre va jeter un éclair pour en augmenter l'effet. Ou alors, vous allez faire pleuvoir, vous allez jeter un sort de froid qui va augmenter l'effet de gel et geler les persos.
Ah, donc tu peux vraiment jouer
voilà,
avec tous les éléments.
Voilà, tu mélanges tout. Et même les combats sont carrément prévus pour ça, puisque comme on est sur des cartes non générées aléatoirement, hein, c'est vraiment des cartes... Il va y avoir des endroits où, si jamais vous n'utilisez pas l'environnement à votre avantage, c'est impossible de remporter le combat à part de passer en mode facile.
D'accord.
En fait, un des défauts d'ailleurs, c'est ça. C'est qu'entre le mode facile et le mode normal, il y a un gap monstrueux. Et le mode facile est est déjà bien hard, quoi. Surtout si vous n'avez pas encore tous vos 4 persos au début, ça, les premières missions ça va, mais après si vous n'avez pas encore trouvé comment débloquer les autres persos, enfin aller les chercher, vous posez des questions, il y a un petit moment où au début ça devient chaud. Donc voilà, en plus le début est assez agréable et pas trop didactique, mais juste assez pour vous expliquer comment ça marche. Quoi vous dire encore, l'aventure est assez longue, j'ai toujours pas fini, je dois être à je sais pas une trentaine d'heures, donc ça va bien. Ah, mais c'est un moment que j'ai pas joué là. Non, c'est pas, ça fait pas 6 mois, ça fait plutôt 4 mois.
Ouais, non, ça a une bonne durée de vie.
Ça a une bonne durée de vie. Le fait que les choix moraux influencent vraiment sur le scénario, il y a 2-3 facilités. Par exemple, vous allez à un moment donné vous retrouver un espèce de hub dans lequel vous pouvez vous téléporter. À tes souhaits. Et dans ce hub, vous allez retrouver d'autres persos à recruter, ce sera un peu plus tard, ou vous allez plutôt plus facilement aller vous déplacer, des choses comme ça. Vous allez, c'est un peu votre château à vous, si vous voulez. Donc c'est un petit peu facile, mais ça permet de simplifier les voyages quand même, parce que ils sont quand même pas les routes jusqu'au bout, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ouais. Quelques défauts sur certains moments, les chargements vont être très longs, il y a quelques bugs. Ce qui est vachement agréable, c'est qu'ils arrêtent pas de patcher le jeu.
Ah oui, ça, donc il y a vraiment un suivi continu.
La VF, à l'écrit en tout cas, parce que j'ai pas trop testé à l'oral, à l'écrit est très bien, sauf que par exemple, c'est un des trucs qu'ils ont le plus patché, parce qu'il manque, il y a des lignes de dialogue qui sont pas traduites du tout. Donc si vous avez un problème avec l'anglais, c'est un petit peu un souci encore, mais je crois que ça s'est bien arrangé. Et voilà, un truc étrange sur les musiques, qui sont, il y en a des très bonnes, des très mauvaises, on voit que ça a été fait par beaucoup de monde. Ça se ressent quand tu joues.
Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Vraiment...
Il y en a vraiment des très très bonnes et ça a l'air un peu random quand tu les joues. Là, tu me disais la musique de l'auberge, je la reconnais pas parce que j'ai peut-être baissé pas mal les musiques à force, tu vois. C'est peut-être ça aussi.
Ouais, d'accord.
Et voilà. Donc voilà, à part la difficulté, le gap entre la difficulté normale, l'univers qui est un petit peu générique, mais de toute façon, l'écriture des quêtes rattrape beaucoup de choses parce que c'est vraiment c'est intéressant. Et cette histoire de localisation qui peut vous rebuter, moi je vous le conseille franchement, sans compter qu'il est pas super cher, il coûte 40€, enfin $40 sur GOG pour être exact, Good Old Game, parce que Good Old Game c'est la vie, parce que par rapport à Steam il n'y a pas de...
Oui. Non, non, parce que Steam il y a du DRM, quoi, c'est pas sûr.
Oui c'est vrai ça.
Tu veux pas jouer avec nous.
J'aime pas les gens. Et voilà, je vous conseille donc Divinity Original Sin sur PC.
Et oui, et bien sûr ça n'est que là. Sur PC.
Mais évidemment. Where?
Voilà. Non, parce que je suis bien contente que tu en aies parlé, parce que moi c'est un jeu qui me tente vraiment.
Ah, tu es sur Mac, pardon.
Et je
d'accord.
N'ai plus. Non.
Sur
Mac,
console, c'est même pas la peine, c'est pas jouable, il y a tellement de trucs à faire à la souris.
Ouais, c'est ça, ce genre de truc, c'est de toute façon impossible sur console. Mais du coup, c'est une grande frustration pour moi.
Ouais.
De pas avoir l'outil pour pouvoir y jouer, de ne plus l'avoir.
Mais d'ailleurs, même sur GOG, la plupart des jeux auxquels je veux rejouer.
Il y a pas mal de vieux jeux, ouais.
De vieux jeux aussi, et la plupart sont que sur Windows, et pareil, j'ai actuellement plus de PC Windows, donc c'est un petit peu frustrant des fois. Mais ouais, j'avais bien, là je note aussi. Ça,
ah, si,
ça,
t'es, ça si t'aimes beaucoup les RPG à l'ancienne.
Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué vraiment un truc vraiment hardcore comme ça.
C'est un peu plus c'est un peu hardcore par rapport à des jeux récents. Par contre, si t'avais. Ouais. C'est la première fois que je joue un héritier vraiment de Baldur's Gate. De ce que j'avais aimé dans Baldur's Gate.
Ouais, bah ça, c'était vraiment le côté qui me plaisait, parce que moi, Baldur's Gate, j'y ai passé 2, tellement d'heures. Enfin,
et j'avais essayé de relancer
les
versions HD qu'ils ont ressorti Baldur's Gate, et un Unset, et non seulement ils ont pratiquement rien fait dessus, mais tu sens, ça accuse l'âge quand même un peu. C'est-à-dire, t'as des rigidités que t'as oubliées dans tes souvenirs, et des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Le truc aussi que je regrette, je disais, c'est l'histoire du loot aléatoire qui fait. On dirait une petite concession au modernisme qui n'est pas forcément indispensable. Voilà.
Bien. Eh ben écoute, merci beaucoup.
Cool, il tourne
sur
les PC. Sur
des PC pas trop gros. Ah. Par contre, il faut quand même une carte graphique dédiée.
Ouais.
Voilà.
Bah, je m'y. Donc, je n'y jouerai
pas. Voilà. Ça répond aussi à ma question.
Pareil.
Pas encore. Plus tard.
Oui, voilà.
Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et ben, on va passer à Zafeu, qui va lui aussi avoir droit à sa petite énigme musicale.
Musicale, oui.
C'est un peu plus capillotracté, là. Ouais. Thank you. suppose que tu ne vois pas du tout pourquoi.
Ah ben, pas du tout, mais vraiment pas du tout là.
C'était pas une musique de pub.
Oh, c'est un morceau qui est très connu, mais en fait, c'est surtout dans la bande originale d'un film qui s'appelle Le Chocolat. Où Johnny Depp joue un gitan qui fait du swing.
Décidément, il est entre les films de chocolat, lui. Entre Charlie et tout ça.
Voilà. Ouais. Et Juliette Binoche. En fait, c'est un film où Juliette Binoche arrive dans un petit village français dans les années 50, 40-50. Et elle ouvre une chocolaterie. D'accord. Et voilà, enfin, c'est en général un film qui a pas mal plu aux filles. Parce qu'il y a Juliette Binoche dedans, parce qu'il y a le côté un peu comédie romantique, mais pas que.
Voilà. Johnny Depp.
Ouais, voilà. Quand il était en plus, c'est un truc des années 90, donc il était encore tout.
Il était pas croulant.
Frais, tout jeune. Enfin, il l'est pas vraiment maintenant, mais bon. Voilà, donc non, c'était vraiment le truc. Il faut 12 niveaux de lecture pour en arriver à là. Voilà. Donc on t'écoute, Zafeu.
Alors, ben, moi, ce soir, je voulais vous parler un peu de chocolat. Alors, quand j'ai commencé à regarder un peu le sujet, je me suis rendu compte de la masse de travail, des différents aspects du chocolat,
et
je me suis dit,
voilà,
j'y arriverai jamais. Et donc, j'ai décidé juste de vous parler des origines du chocolat.
Ah, c'est déjà vaste.
C'est déjà vaste, oui, c'est déjà vaste. Mais je vais faire beaucoup de
travail. À jour, votre veste
est une masse de virus.
Alors, avant de vous parler des origines du chocolat, il faut quand même que je vous explique un petit peu, enfin vous le savez sans doute, comment est fait le chocolat.
A priori,
elle
oui.
Il est fait par des hommes, oui. Des petits, alors, petits déjà... personnages dans une chocolaterie géante. Des Oompa Loompa.
Des Oompa
Loompa.
Mais pas du tout, ah bah c'est oui. Les marmottes avec les vaches violettes.
Oui. Ah, les vaches violettes, évidemment.
Voilà. Donc, le chocolat, enfin les différents chocolats, sont déjà tirés d'un arbre. D'un fruit d'un arbre qui s'appelle ou le cacao, le cacaoyer ou le cacaotier.
Ah, les
je vous
trois sont
tout
bons.
De suite les trois mots.
Okay.
Les trois sont bons. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est un arbre qui est d'origine de la forêt équatoriale, de l'Amazonie, qui à l'état naturel peut faire jusqu'à à peu près 15 mètres de haut.
Je voyais
les
pas
graines.
Si bon.
En fait, à l'origine, à l'état naturel, il fait à peu près 15 mètres de haut. Mais pour la culture, ils essaient de limiter sa hauteur à peu près 3, 4, 5 mètres pour faciliter la récolte. Vu que toute la récolte se fait à la main, au coupe-coupe, ça leur évite de monter à 15 mètres de haut. Donc, c'est un arbre qui est très, très fragile. Alors, c'est un arbre qui aime beaucoup la chaleur, l'humidité, mais qui ne supporte pas le soleil. Et pas le vent. Ce qui fait qu'il a trouvé son habitat naturel, son écosystème, dans les forêts équatoriales, sous les grands arbres.
Où il est protégé de la lumière et du vent.
Et du vent, exactement. Alors, donc, sur cet arbre, un fruit pousse, qui s'appelle la cabosse. Bon, j'allais rapidement là-dessus. Dans une cabosse, on va trouver entre 20 et 40 fèves. Et ces arbres permettent deux récoltes par an. Une cabosse met à peu près 6 mois pour pousser.
C'est deux récoltes.
Deux récoltes par an, oui, comme là-bas, il n'y a pas d'hiver. Il y a juste un peu... Enfin, c'est de l'humidité pratiquement constante en forêt équatoriale. Le roulement se fait naturellement. Voilà, donc déjà, là, on a l'arbre et le fruit qui va nous permettre de faire le chocolat. Alors, ensuite, pour faire le chocolat, il faut cueillir les cabosses. Alors, je vais aller très rapidement là-dessus. On retire toutes les graines qui sont jaunes de l'intérieur des cabosses. Et à l'origine, ils mettent ça sur des feuilles de banane.
Ouais.
Pour les faire fermenter. Toujours à l'humidité. Pour les faire fermenter. Une à deux semaines. Et quand la graine est fermentée, elle devient marron. Et elle devient une fève. Voilà. Ensuite, c'est séché au soleil. Ouais.
Et ensuite,
c'est séché au soleil.
Séché au soleil.
Voilà.
C'est d'abord fermenté, sur la feuille de banane. Une fois que c'est fermenté, séché.
À l'origine, c'était comme ça, d'accord. Oui. Sur la feuille de banane, pour exhaler un peu le goût, pour le faire un peu pourrir, pour que ça sente quelque chose. Hein, c'est comme le bon fromage.
C'est pas le bon fromage.
Et ensuite, donc, on le fait sécher. Voilà. Donc là, on est à l'origine de l'utilisation du chocolat. Comme on retrouve ça à peu près 600 ans après Jésus-Christ dans le Yucatan, donc la péninsule du Yucatan à cheval entre le Mexique et le Guatemala.
Pardon, excuse-moi.
Oui, bah c'est un très grand cheval. Voilà. Et donc, à l'époque, les Mayas...
Je ne l'ai pas fait.
Pas les abeilles, évidemment. Pensé. Non, mais j'ai voulu te précéder. Donc, les Mayas prenaient ces fèves, donc les faisaient sécher, etc. Et l'avantage d'une fève de cette fève séchée, elle dure extrêmement longtemps. Elle se conserve des dizaines, voire des centaines d'années. Et ils se servaient de ces fèves comme monnaie. Pas de pièces, pas de billets, rien du tout. La monnaie, c'était la fève.
Parce que ça avait une valeur intrinsèque.
C'était devenu leur pièce de monnaie.
Alors, ça avait une véritable valeur monétaire. J'y reviendrai tout à l'heure quand.
Est-ce qu'il y avait des.
Enfin, jamais mieux revenir tout de suite.
Est-ce qu'il y avait des mailles à l'envers et des mailles à l'endroit? D'accord.
Non, c'était que des fèves.
C'est raté. Voilà. C'est raté.
Ah là là, j'ai pas vu la. Bon, tant pis. J'étais mauvais sur ce coup. Donc, normalement, c'était quelque chose que je voulais dire un peu plus tard. Quand les Espagnols ont envahi le Mexique, ils ont fait une convergence de valeurs entre le real, la monnaie espagnole,
ah oui,
et la fève. Un real valait 154 fèves.
Ah ouais.
Donc ça avait une véritable valeur.
D'accord.
Fallait faire gaffe à la déflation, hein, parce que franchement...
Comment tu te retrouves au chocolat hein.
Alors, je retourne. Oh là là. Ah, et d'ailleurs, je voudrais dire, en parlant de chocolat, il y a quelque chose de honteux.
Oui.
Ils font du cacao à Cuba.
Et ça peut pas se faire.
Bah non, tu peux pas faire du cacao
non,
à Cuba.
Non.
Tu peux faire du cacao à Cuo.
Oh, non, allez.
Vas-y,
continue.
Voilà.
Donc, tu reprends. La fève, 161 voilà, fèves pour un réal. Ok.
154.
Bon. Pardon.
On va revenir au temps des Mayas. Donc, au temps des Mayas, donc ils se servaient de ces fèves comme monnaie, et les personnes riches à l'époque, pour montrer qu'ils avaient un peu d'argent, faisaient aussi une autre chose avec cette monnaie. Ils en faisaient une boisson. Voilà, ils avaient plein de sous comme ils voulaient, ils pouvaient le boire et ça faisait chier les autres. Alors, c'était du chocoalt. Ils appelaient ça le chocoalt, qui veut dire en maya la boisson amère.
On se rapproche.
Alors, pour faire du chocoalt, on prend la fève, on l'écrase pour en faire une poudre, on la met dans de l'eau bouillante, on la fait bouillir avec différentes épices. Avec du poivre, du piment, de la vanille, de la cannelle, des tas de trucs qu'ils trouvaient là-bas. Et ça nous fait une boisson très amère et un peu piquante. Donc ça n'a rien à voir, une boisson plutôt rougeâtre, hein, qui n'a rien à voir avec évidemment le chocolat qu'on a maintenant. C'était leur boisson de tous les jours. Alors c'est une boisson qui a beaucoup de vertus, qui est déjà très nourrissante, fortifiante, qui paraît-il a des vertus aphrodisiaques.
Ouais, enfin, si t'écoutes, ça. Dès
que tu mets des épices,
ça.
Bah, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai quelques articles médicaux là-dessus qui expliquent pourquoi ça en a quand même quelques-unes, mais si on prend du chocolat à vraiment très haute dose, c'est-à-dire plusieurs kilos par jour.
Après ça, t'as
c'est-à-dire. Après, t'as vraiment envie, mais tu fais 3 tonnes.
Il n'y a plus de personne.
T'as plus la force non plus.
Non plus. Donc là, on est au temps des Mayas. Donc, ensuite, les civilisations passent les unes après les autres. On arrive aux Toltecs, qui sont venus du Nord, une tribu nomade venue du Nord, qui est arrivée, qui s'est posée là-bas quand la civilisation Maya a disparu. Et cette civilisation Toltec portait un énorme culte aux cacaoyers, qu'ils appelaient pour eux l'arbre du paradis. Et ils avaient un roi dieu chez eux dans leur mythologie. Leur roi, c'était leur dieu à l'époque dans leur mythologie. Ce dieu, c'était Quetzalcoatl.
Ah, mais c'était les Aztèques alors.
Et oui.
Le fameux. Ah ben, ils ont gardé les Aztèques D'accord. ont gardé exactement la même mythologie. Donc le serpent à plumes. Alors je vais passer un petit tour rapide sur cette mythologie. Alors, donc le Quetzalcoatl, c'était le grand maître du cacao. Il avait dérobé quelques plants de cacaoyer dans les champs lumineux des fils du soleil, là je lis, hein, et il a appris aux hommes à le cultiver et à préparer le Tzokoatl, la boisson divine conférant force et santé. Alors, il a été chassé de son royaume par un sorcier qui s'est servi de ses pouvoirs pour frapper le serpent à plumes de folie. Et il l'a chassé de son royaume. Donc, Quetzalcoatl s'embarqua alors sur un radeau fait de serpents entrelacés vers l'est, dans l'Atlantique, avant de disparaître dans le lointain. Mais par contre, il promit de revenir. Il promit de revenir lors d'une année placée sous le signe du roseau.
D'accord. Okay.
Chaque année avait des signes, comme D'accord. par exemple pour le... Comment ça s'appelle le...
les
Exactement, les Chinois. Les signes chinois, j'avais oublié le mot signe. Mais donc, voilà, il s'est enfui. Mais les Toltecs continuèrent à vénérer et à préparer le Tzokoalt pour toujours se souvenir du serpent à plumes. Voilà. Ensuite, les Aztèques sont arrivés et les Aztèques ont complètement suivi le culte. Donc là, on est à l'époque précolombienne. Les précolombiens l'utilisent comme monnaie
et eux aussi, ouais.
Et ils boivent des coups avec.
Ils boivent leur argent, quoi.
Comme toi. Ils boivent leur argent, exactement.
C'est ça, c'est pas pire que de dépenser son salaire dans les bars. Hein,
exactement, exactement.
C'est plus direct.
Ensuite arrive 1502. 1502, c'est le quatrième voyage et dernier voyage de Christophe Colomb. Alors, il arrive sur l'île de Guanaga, au large du Honduras.
D'accord.
Ah, je savais même pas qu'il y avait été quatre fois. Je pensais qu'il y avait été qu'une seule fois, et puis qu'après, c'était d'autres personnes qui avaient...
Pareil.
Ok.
Ah bah ça, c'est toute une histoire, ce serait même assez sympa à faire.
Ah bah, volontiers.
Parce que c'est...
On remet ça pour une prochaine.
Oh bah, avec plaisir, ça me fera déjà un sujet tout fait.
Oh là là. On se place pour les prochaines.
C'est moche.
Donc... Et ça va être donc la première fois que les Européens vont avoir affaire au Tzokoatl. Alors, il y a pas mal de versions sur ce quatrième voyage. Déjà, pour une chose, c'est que le capitaine des navires n'a pas rédigé son journal de bord. Donc, on n'a que des on-dit sur ce quatrième voyage. Alors, on a trois histoires qui relatent la première rencontre. La première... dit que les Aztèques auraient donné à boire du Tzokoatl à Christophe Colomb, qui aurait trouvé ça dégueulasse, et qui serait parti sans rien faire. La deuxième histoire, c'est que les Aztèques auraient donné une cargaison de fèves à Christophe Colomb, mais que lui aurait pris ça pour des crottes de chèvre, et les aurait jetées par-dessus bord. Et la dernière version, qui est sans doute la plus plausible, c'est le fils de Christophe Colomb, qui était aussi du voyage, qui a relaté ensuite dans ses mémoires le fait que les Aztèques étaient venus avec une barque avec ses fèves, ce qu'il lui appelait des amandes. Que les amandes, certaines amandes sont tombées dans l'eau et que les Aztèques plongeaient comme des fous dans l'eau pour ramasser ses amandes. Et le fils de Christophe Colomb aurait vu à ce moment-là la valeur qu'avaient les fèves pour les Aztèques. Ils auraient été capables de se tuer pour les reprendre.
D'aller plonger comme ça dans l'eau, quitte à se noyer.
Voilà. Donc, en fait, en 1502, cette première rencontre avec les fèves n'amène rien. Nul n'en sait rien en Europe. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de chocolat. Ensuite, 1519. Alors, 1519, c'est un certain Hernán Cortés qui débarque à l'est du Mexique. Alors, il se trouve qu'il débarque à l'est du Mexique en 1519, qui est une année sous le signe du roseau.
Comme de par hasard.
Voilà, exactement, comme de par hasard. Donc, il arrive avec son habit de sur des chevaux, déjà animaux inconnus au Mexique dans ce temps-là, donc sur des animaux inconnus, avec sa peau pâle, sa barbe, l'armure brillante, les fusils, et pour les Aztèques, il n'y a aucun doute, Cortés, c'est Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Donc il est reçu avec tous les honneurs dus à son... au fait qu'il était un dieu. Le roi aztèque le reconnaît directement comme son suzerain et offre à Cortés toutes les plantations de cacaoyers se trouvant à Tula, donc la capitale de l'époque des Aztèques. Mais lui, ce que fait Cortés, dès qu'il reçoit, il voit aussi la valeur qu'ont les fèves pour eux, tout ce qu'il va faire pour l'instant au début, c'est prendre ses fèves et les échanger contre de l'or qu'il ramènera ensuite en Espagne.
D'accord.
Voilà.
Il a loupé son coup.
Voilà. Eh ben, pas exactement, mais ça c'est le début. Ça c'est le début. Parce que les Espagnols restent pas mal de temps là-bas, et au bout d'un certain temps, ils ont un gros souci. Ils n'ont plus de vin.
Ça c'est un gros souci.
Aïe.
C'est un gros problème. Voilà. Et ils vont commencer à boire le chocoalt.
Alors c'est ça leur c'était fermenté le chocoalt, c'était alcoolisé ? Oui, non.
Ah pas du tout. Non, c'était pas c'est du tout alcoolisé, il y avait pas d'alcool du tout. C'était du piment, du poivre et du cacao.
Et puis c'était probablement très amer, donc
Oui, très amer. Oui, l'eau amère. Alors, ils sont en manque de vin. Et ils commencent à en boire, donc ils ne trouvent pas ça très très bon, ils vont rajouter dedans encore un peu plus de vanille, et là ils vont
enlever
rajouter du sucre.
Peut-être même, non
Ils vont aussi enlever les épices. Et ils vont vraiment commencer à aimer ça, et à la fin ils ne buvaient, de toute façon ils n'avaient plus que ça à boire, hein, parce que chez eux comme chez nous, on ne boit pas d'eau. Voilà, l'eau c'est mal, c'est dangereux. Donc ça, c'était le premier voyage de Cortés. Il va en faire quelques autres. Et en 1527, il rentre en Espagne avec la première cargaison de fèves et le matériel pour le concasser, etc. Et va offrir ça au roi d'Espagne, à Charles Quint. Et ça va devenir rapidement la boisson officielle de la cour. Et on va boire donc ce chocolat à la cour d'Espagne et en Flandre, qui est aussi une possession espagnole à l'époque. Donc je passe rapidement là-dessus. Ensuite, ce chocolat va arriver en France en 1615, quand Anne d'Autriche épouse Louis XIII, Anne d'Autriche, qui est la fille du roi d'Espagne. Et comme elle aime ça, elle amène la recette avec elle.
Et voilà.
Alors j'avais entendu un truc, peut-être que tu en parleras ensuite, mais ça correspond à peu près à l'époque où les Juifs ont été chassés d'Espagne. Et il y a une grosse... Ils ont été chassés d'Espagne parce qu'il y a eu les rois catholiques, Charles Quint, tout ça, ils voulaient plus de Juifs, plus d'Arabes en Espagne, parce qu'il y avait une grosse occupation en Andalousie. C'est au moment où ils ont réunifié l'Espagne. Et donc les Juifs sont allés s'installer dans le Pays Basque français. D'accord. Tous les juifs séfarades d'Espagne. Et apparemment, c'est les premiers à avoir commencé le commerce du chocolat en France, suite à ça, puisqu'ils l'ont amené avec eux d'Espagne.
Mais c'est très intéressant, mais ça, moi je ne l'avais pas vu.
Voilà.
Ah, mais du coup, c'est les premiers qui ont dû le commercialiser, mais pour le grand public, on va dire. D'accord.
Voilà, c'est ça.
Enfin, pour le grand public, pour la noblesse.
Pour la noblesse, oui.
Parce que c'est quand même quelque chose, c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Voilà. Donc après en France, donc ça va être bu par à la cour française et par la grande bourgeoisie. Donc juste à la cour, la grande bourgeoisie, au XVIIe siècle apparaît quelques chocolateries. Alors les chocolateries, ça correspond au bar pour nous maintenant. Donc c'est l'endroit où ils prennent les fèves, ils les écrasent, ils les font bouillir, ils les font boire.
D'accord.
Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a que les riches et les rois qui boivent le chocolat.
Et c'est uniquement sous la forme boisson.
Jusqu'au 19e siècle, c'est uniquement sous la forme boisson. Le chocolat, en fait, va se démocratiser, non pas par les rois, etc., mais par les pharmaciens.
Grâce à ses vertus.
Le chocolat Et voilà, c'est à des vertus médicinales. Alors, soi-disant, il soigne les problèmes digestifs, la dysenterie, la fièvre. C'est un stimulant cardiaque. Le beurre de cacao est utilisé pour traiter les brûlures, les problèmes de peau. Ça raffermit les seins, il paraît. J'ai pas testé.
M'étonne de toi.
Et c'est un aphrodisiaque. Là.
Est-ce qu'il y avait de l'huile de palme?
Pas encore.
Non, de la lécithine de soja.
Mais non, tu pourrais essayer avec le Nicolas, Pernetard.
Quand même savoir ce qu'on mange. Hein.
Et c'est là, au 19e siècle, qu'on va voir quelques pharmaciens célèbres. Comme Jean-Antoine Brutus de Meunier.
Bien sûr.
Bien sûr.
Le chocolat Meunier.
Évidemment.
Bien joué.
Ah,
autant pour moi.
Bah oui. Effectivement.
Un autre qui s'appelait, donc qui est venu d'Allemagne, qui a été viré d'Allemagne, qui a émigré en Suisse, qui s'appelait Heinrich Nestlé.
Nestlé.
Oui, qui ont ensuite fondé l'Empire Nestlé. Johann Rudolf Lindt. Donc tous les trois là, c'était des pharmaciens.
C'était vraiment le début. Jeff de Bruges aussi. Ah non, c'était pas là.
Et d'ailleurs, Jean-Antoine Brutus de Meunier a inventé quelque chose en 1836.
Ah, je suis trop fort.
Exactement.
Ah.
Alors cette tablette, ça ressemblait d'accord, beaucoup plus à un Kit Kat.
Ah ben.
C'était 6 demi-cylindres accrochés entre eux.
Pas vraiment une tablette. Et est-ce que déjà, est-ce qu'il y avait iOS dessus ou Android? Android.
Non, bah Android.
Bah oui, c'est KitKat.
C'était KitKat. Ça coûtait 1030 euros.
KitKat, c'est Android.
Voyons.
Tout se tient toujours.
Voilà, donc c'est à ce moment-là que la recette définitive du chocolat a été faite grâce au progrès technologique.
Que.
Exact. Que.
Et ben.
Donc, on en était au séchage. Et là, j'ai très rapidement finir. Ensuite, après le séchage,
l'essorage,
ils se sont mis à brûler les fèves. Exactement, la torréfaction. Donc, nettoyer, torréfier. À 120, 150 degrés, mais ça, on s'en fout. Ensuite, broyer. Alors, quand on broyait, on fabriquait ce qu'ils appelaient un gruet, qu'on peut toujours trouver sous le terme gruet. Alors, c'est le cacao, mais le cacao pur. C'est grosso modo 50-60% de matière grasse.
Et donc après ?
Ensuite, ils l'ont placé sous une presse hydraulique. Alors, exactement, pour faire partir le gras. Et ça, c'est un certain Van Houten qui a inventé ça.
Et ça donne le cacao en poudre amère Van Houten.
Exactement. Qui est très très bon pour faire la cuisine et qui sert ensuite à faire toutes les autres préparations.
Absolument.
Donc ils ont réussi à séparer le beurre de cacao. Et ça. Et ensuite, donc affinage et conchage. Bon, je passe affinage, on rajoute des trucs dedans pour donner du goût. Et conchage. Conchage, ça consiste à remélanger tout ce que l'on a séparé avant. C'est-à-dire la poudre de cacao et le beurre de cacao. Dans la proportion qu'on a à vie, à peu près 80 degrés pour faire une pâte très très lisse. Ensuite, on le fait refroidir jusqu'à à peu près 28 degrés pour lui donner sa forme définitive. Et ça nous donne le bon chocolat bien lisse qui n'a pas les cristaux blancs au-dessus. Comme on a avec le vieux chocolat qui prend les cristaux blancs.
Ouais. Mm-hmm. Et donc c'est ça que ça a permis la torréfaction.
C'est
ça
pareil,
a permis de... Alors,
alors en fait c'est surtout pour exhaler le
c'est plus
le...
efficace que le
du temps de le faire simplement sécher au soleil
et
sur
de le
des
faire
pierres.
Fermenter aussi.
Voilà.
Non, la fermentation n'a pas été remplacée par
la fermentation existe toujours. Non, elle n'a pas été remplacée. Oui. À l'époque c'était dans des caisses de bananes, maintenant ils font ça dans des tonneaux.
Des bananes aussi comme dans Donkey Kong.
Oh bah je sais pas. Très très bien, très très bien. Donc résultat maintenant, c'est bon, je vais finir. Il y a 3,5 millions de tonnes de fèves qui sont produites chaque année. En France, on mange 7 kilos de chocolat par an, par personne en moyenne. Enfants et vieillards compris.
Je dois faire 50% de la moyenne française
beaucoup,
à moi toute seule.
Oui.
J'en prends 10 aussi.
Alors, le chocolat permet quand même à 280 000 enfants de travailler dans
bon,
le monde.
Ça. D'accord.
Ah, c'est bien.
C'est bien. Dans les champs, pour les récoltes, etc.
Pas des baskets.
Ou des iPhones.
Et puis la vie au grand air, ça a du bon, hein.
Oui.
C'est horrible.
Et je vais finir juste par une petite chose. C'est que je vous ai dit que les fèves avaient une valeur au départ. Je voulais y venir, mais j'ai totalement oublié. Je vais juste vous dire un peu. Donc, 3 fèves, ça permet d'acheter, par exemple, un œuf de dinde, 10 fèves, un lapin. Mmh. On a des prix, on a des listes de prix qui nous restent de l'époque là. Pour 100 fèves, on pouvait acheter une jolie esclave.
Ça marche encore ?
Ah oui, parce qu'il y avait. Bah, celle de l'époque, très valide à mon époque. Et par contre, pour 50 fèves, on pouvait aussi payer les faveurs d'une jolie courtisane pendant quelques moments.
Ouais.
Donc, ça, ce sont des listes de prix qui nous restent de l'époque.
Est-ce que tu crois, que les fèves avec dans, ça. Les... dans les galettes viennent de là ?
Je crois que c'est ça, hein. Ou non, c'est la fève haricot, il me semble.
Oui, plutôt la fève haricot européenne, oui.
Ouais, ouais. Non, non, c'est bien, ça laisse songeur comme fin.
C'est une très belle fin.
Oui. C'est une très belle fin. En tout cas, ben, merci, c'était hyper intéressant.
Ouais, c'est bonne fin.
Non, tout ça donne faim. Et c'est vrai que le chocolat, c'est encore un produit qui aujourd'hui, à la TVA,
bah, c'est à cause des fêtes de l'ambassadeur, avec les Ferrero Rocher.
Oui, bah c'est ça. C'est ça. Donc, non, vraiment, c'était super intéressant. Merci beaucoup.
Et Zafeu, le chocolat riz soufflé, c'était en quelle année ? Parce que c'est quand même bon, tu vois.
Comment ?
Le chocolat riz soufflé, c'était quand ? Parce que c'était quand même bon, tu vois, le chocolat. Non ?
Alors, chocolat au riz soufflé, alors les premiers. Alors, c'était qui le premier, Camille ?
Oh, putain, il le sait, merde.
Putain, t'as la date en plus.
Oh là là, oui, attends, j'ai regardé. Le riz soufflé, je ne sais plus qui c'était. Ça devait être Poulain.
C'était un mardi.
Poulain,
je crois,
dans les années 1840.
Ouais, et le palais breton.
C'était un mardi.
Oui, c'était un mardi. D'accord. Et Poulain, d'ailleurs, qui a fait quelque chose de fabuleux dans les années 1850-1860, il a commencé à mettre les premières images.
Ah, les images de Poulain.
Dans les, dans les tablettes de chocolat.
Ouais, moi aussi.
Et bah, ça, je l'ai connu.
Bah, moi aussi. Bah, on est tous vieux, hein. Sauf le gamin, la Pierre-Antoine.
Ouais, ouais.
Remarque, Steph, je sais pas.
Non, j'ai fait mes 68.
Ah, bah, t'es vieux aussi.
Moi, j'ai 38 ans. Je suis vieux aussi.
Oui.
C'est moi le plus vieux.
J'ai connu surtout les chocolats. C'était le
chocolat des animaux.
Ah, c'était richesse du monde.
Merveille
du monde.
Non. Merveille du monde.
Merveille du monde.
Merveille du monde, oui.
Non. Non, c'est Jumanji.
C'est Jumanji. Seven Wonders.
Non, c'était richesse du monde, là, le jeu de société.
D'accord. Richesse du monde.
Voilà, on faisait des gros capitalistes qui achetaient. Voilà, oui, bah, qui pouvaient acheter d'ailleurs du chocolat.
Aussi.
Le chocolat d'ailleurs, qui est la troisième matière alimentaire la plus vendue au monde. Hein. Derrière le sucre et le café. Ouais. En valeur.
Ah ouais, mais c'est coté en bourse le cours du chocolat.
Et tout ça nous vient des Aztèques.
Mais c'est terrible.
Ouais.
Qui ont inventé aussi les couteaux aussi.
Les couteaux Aztèques, bien sûr.
Ok, bon.
Je vous rassure, j'en ai pas, moi. Ce qui est étonnant, d'ailleurs. Mais...
Sujet suivant, eh ben, on va passer à toi, Steph.
Mais oui.
Donc, alors, le jingle, là, c'est un... il a plusieurs niveaux de lecture.
Ok.
Allez, c'est parti.
Number 9. Donc c'est les Rolling Stones, c'est ça? Non, oui, c'est Revolution Number 9 des Beatles, mais moi c'est pas Revolution.
Voilà, mais j'ai mis ça aussi, c'est un petit clin d'œil pied de nez à péremptoire qui m'a menacé de reprendre son podcast et si là, je parlais des Beatles dedans.
Ah, ok, d'accord.
Et là, j'ai déjà utilisé ce jingle il y a plusieurs
épisodes. Ah, merde.
Et moi je vais pas parler de la Révolution numéro 9, mais de la Révolution numéro 60, qui n'est pas une chanson des Beatles. Donc c'est Revolution 60. C'est un jeu sur iOS, pour iPhone et iPad, donc vaut mieux jouer sur iPad parce que l'écran, il est plus adapté à un grand écran en fait. Et c'est un jeu dont la principale caractéristique est d'avoir été fait entièrement par des femmes. Donc c'est un studio Giant Space Cat qui est composé entièrement de développeuses et d'artistes féminines. Et ça se reflète aussi dans le jeu puisque le casting des personnages est aussi entièrement féminin. Alors, l'histoire de Revolution 60, alors c'est marrant parce que d'ailleurs il y a quelques petits points communs avec le jeu qui a été présenté plus tôt, puisqu'il a aussi été financé par Kickstarter à la base. Et il y a aussi pas mal de questions de choix moraux sur lesquelles je vais revenir. Alors l'histoire, ben, c'est un petit peu... alors sans trop faire de spoiler, parce que comme le jeu est assez court, on a vite fait de spoiler une grosse partie de l'histoire. Mais disons que c'est un univers un petit peu à mi-chemin entre un film de science-fiction et un côté un petit peu James Bond, un peu kitsch, un univers un peu rétro-60s. Dans un monde où la guerre froide se serait poursuivie dans le futur. Et donc on suit une équipe d'agents qui a été envoyée sur un vaisseau qui a été détourné par une organisation terroriste et qui menace d'envoyer des choses un petit peu nucléaires sur la Chine et de créer un petit peu une petite tension entre la Chine et les États-Unis. Et donc l'équipe est entièrement féminine et composée de 4 personnages notamment. Donc il y a Holiday qui est l'héroïne du jeu, donc c'est une espèce de personnage un peu badass, un peu un mélange de James Bond au féminin et de l'héroïne de Kill Bill, enfin un petit côté comme ça.
Ouais.
Y a son ami, dont le nom m'échappe d'ailleurs, et qui est blessé grièvement au début du jeu par l'héroïne accidentellement, ce qui a une influence sur le reste de l'histoire d'ailleurs. Et elle est sauvée en lui transplantant des nanomachines dans le cerveau, et ce qui fait qu'elle ne va plus ressentir aucune émotion, et ça aussi, ça va avoir une influence sur le scénario. Ensuite, on a Minuette, qui est la boss de cette équipe d'agents, et qui a un caractère assez froid, assez cassant, avec un petit côté, on ne sait pas trop si elle cache des choses sur la mission, etc. Et enfin, on a Amelia, qui est une scientifique dépêchée sur place, et qui a un caractère un peu plus accueillant et amical que Minuette, et le joueur aura plus facilement tendance à aller vers elle. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça a une incidence, puisque le jeu est basé sur une série de choix moraux. Donc tout au long du jeu, on pourra se comporter vraiment en professionnel qui respecte les ordres à la lettre, ou la jouer rebelle en outrepassant les ordres. Et le deuxième choix qu'on devra faire, c'est justement faire davantage confiance à Minuette, donc plutôt pour le côté pro, ou à Amelia, et plutôt Amelia qui a un petit peu tendance à douter un petit peu de la mission. Donc là aussi, on va se détourner un petit peu du côté officiel. Alors, le jeu, c'est comment il se présente? C'est un petit peu une aventure interactive, un peu à la Heavy Rain, avec une suite de séquences cinématiques et des séquences un petit peu des genre Quick Time Events, principalement, avec entrecoupé quand même de petits sets de petites séquences de combat qui sont assez bien faites, c'est un système un petit peu entre du tour par tour et du temps réel. Alors c'est assez fastidieux au début, parce qu'en fait, le principe, c'est on déplace son personnage sur une grille, et quand on tire ou quand on donne un coup, en fait, il y a un timer qui est assez long au début, jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau tirer. Alors au début, ouais, donc c'est super fastidieux. Sur la fin, par contre, les combats deviennent vraiment intenses, donc ça c'est vraiment pas mal.
Ouais, il y a une progression, en fait.
Ouais, il y a vraiment une progression, et là, d'ailleurs, la courbe de difficulté a été créée par la personne qui a créé la courbe de difficulté de Rock Band. Donc c'est vraiment une référence.
En voyant un peu les vidéos, là, j'avais l'impression que c'était du rhythm game, les combats, non? D'accord.
Il y a un petit peu de ça, en fait. Il y a un petit côté rhythm game, en fait. Les points forts du jeu... alors, c'est pas vraiment graphiquement... l'univers est assez... assez kitsch, un petit peu, ça rappelle beaucoup Space Channel 5,
oui.
Jeu sur Dreamcast, un peu le jeu de danse, un peu kitschou des années 60.
Il y a un côté, les textures sont pas terribles. Il y a des années 80.
C'est ça, en fait. Et c'est un style qui plaît ou qui plaît pas. Je sais que j'ai des confrères qui ont vraiment détesté. Moi, je trouve ça assez sympa. Alors, le truc, en fait, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est que les développeuses, en fait, ont choisi de faire en sorte que le jeu soit vraiment le plus accessible possible à tous les utilisateurs d'iPad et d'iPhone. Donc ils ont vraiment fait un truc
même
pas trop compliqué,
iPad,
justement, pour que ça tourne de manière fluide. Je crois que ça tourne quand même sur un iPad 1, je crois qu'il faut quand même un iPad 2, il me semble. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et le côté, en fait, le truc qu'ils ont voulu privilégier, vraiment, c'est les animations des personnages. Et notamment les expressions du visage et les voix aussi, parce que les voix sont très très bien faites. En fait, il y a un doublage qui a été réalisé par des actrices qui ont vraiment un petit côté, qui ajoutent vraiment la personnalité des héroïnes. Alors là, justement, on arrive justement au point principal, vraiment, c'est vraiment les personnages qui sont vraiment attachants, ce qui fait qu'on oublie un petit peu justement ce côté technique qui n'est pas forcément parfait, parce que c'est aussi leur premier jeu, donc elles n'ont pas encore été très très bien rodées, elles ont appris finalement à faire le jeu au fur et à mesure qu'elles le réalisaient. Mais les personnages sont tellement attachants en fait qu'on se prend vraiment dans l'histoire. Et le fait aussi que l'histoire a été écrite par une femme, ça change beaucoup l'écriture des personnages. Et on a des personnages ben, forcément féminins très très forts. Alors il y a un petit bémol à ça en fait, c'est que qui a été reproché notamment aux développeuses, c'est le fait que toutes les héroïnes sont toutes grandes, sexy et minces. Alors c'est ça, ça c'est un petit peu moins féministe.
Oui,
du coup.
En même temps.
Et alors il y a une raison à ça en fait, c'est que l'artiste principale a été très très influencée par Sailor Moon, donc c'est un petit forcément. Et alors par contre effectivement, alors elle a dit la créatrice du jeu qui s'appelle Brianna Wu et qui a une très grande gueule un peu sur Twitter au niveau féminisme dans le jeu vidéo, a dit justement que la suite aura des personnages féminins un peu plus divers, donc ça devrait corriger ce point-là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu a été vraiment été fait pour être accessible à tous, donc la courbe de difficulté, comme j'ai dit, elle est vraiment super progressive. Il y a un mode easy pour les joueurs super casual et qui est fait vraiment pour que tous les joueurs puissent apprécier l'histoire en fait. Parce que c'est un petit peu un problème des jeux actuels, c'est-à-dire qu'ils ont des histoires de plus en plus attractives pour des gens qui sont forcément des gros joueurs, des gros gamers. Mais d'un autre côté, l'expérience de jeu peut être vraiment frustrante. Je pense notamment à des jeux comme The Last of Us qui peuvent vraiment intéressé, enfin il y a pas mal de gens qui aiment regarder les gens jouer à Last of Us mais qui pourraient pas y jouer eux-mêmes. Là ils ont vraiment essayé d'inclure tout le monde dans le processus, donc il y a un mode easy qui simplifie encore nettement les combats, etc. Donc on va vraiment pouvoir s'intéresser qu'à l'histoire. Et le jeu lui-même en fait est très court, on peut le finir je crois en à peu près 4 ou 5 heures. Mais
qui est assez honnête pour un jeu de ces eaux-là.
Par contre, ouais, pour un jeu online, c'est pas mal. Mais par contre, il y a, je crois, il y a à peu près 24 fins différentes qui vont dépendre justement des choix moraux qu'on aura fait et aussi de la réussite qu'on aura eue dans les scènes de combat ou dans les scènes de Quick Time Event. Et alors, il y a des fins qui sont complètement ratées ou toute la mission foire et il y a des personnages principaux, un des personnages principaux qui meurt, enfin, c'est un ratage total. Et des fins qui sont un peu plus heureuses, mais la créatrice a bien précisé qu'il n'y a aucune fin qui est vraiment un happy end. Donc toutes les fins sont un peu déprimantes.
Ok, donc comme ça, c'est clair, tu sais où tu vas.
C'est un truc de fille.
Ah, voilà.
C'est faux.
Et justement, ça me fait une bonne transition pour le point suivant. C'est qu'elles ont... en fait, une fois qu'on a fini le jeu une première fois en mode normal, il y a un mode qui est débloqué qui s'appelle le Girlfriend Mode. Alors, le Girlfriend Mode, traditionnellement, ben, c'est le mode le plus facile. Je crois que c'était les créateurs de Borderlands qui avaient surnommé leur mode facile le Girlfriend Mode pour que ta conne de petite amie qui se jouait.
C'est tellement là.
Voilà.
C'est très,
c'était
très
ça, c'était ça le truc initial. Mais là, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que le Girlfriend Mode, c'est le mode complètement impossible que personne ne peut finir, en fait.
J'aime bien l'idée.
C'est un peu comme la Cotton Alley, le truc tout rose dans Super Meat Boy, c'est tout mignon, tout beau, mais c'est injouable quoi.
Voilà, ouais. C'est ça. Et alors un autre bon point, c'est que le jeu, enfin le téléchargement est gratuit, donc on peut télécharger le jeu gratuitement. Et le jeu complet coûte, je crois, 5,49€. D'accord. Ouais, 5,49€, je crois. Mais toute la première partie, elle donne déjà un bon aperçu du jeu. On peut même retarder le moment, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, donc on a forcément un petit pop-up qui vient te dire c'était bien gentil, mais maintenant faut payer. Et à plusieurs reprises, on peut dire non, je veux jouer encore un petit peu plus. J'ai trouvé ça assez marrant. c'est pas un jeu extraordinaire. Il a plein de défauts, mais l'histoire est tellement attachante qu'on a envie de connaître la suite. D'ailleurs, la suite est déjà en préparation. Et en plus, il y a aussi une version, je crois qu'il est prévu, une version et PC et Mac diffusée sur Steam. Android, apparemment, non, parce qu'apparemment, il y a des problèmes. Parce que le jeu utilise le moteur Unreal, et apparemment, il y a des problèmes avec Unreal sur Android pour l'instant.
Il y a une version Windows One.
Non, mais ça serait bien, ça, une version Windows One.
Je dis ça parce que j'ai un Windows Phone, c'est ça.
Oh la vache.
On est deux.
Et
Oh là là.
J'espère que live time.
Non, c'est bien, c'est bien. J'aime bien Windows Phone aussi. En fait,
j'aime bien faire des trucs dessus.
Ouais, c'est bien aussi.
Non, mais il a. À ce que je vois, c'est grand chose. L'avantage d'être différent des autres.
Bah, c'est ça, c'est à la fois le background du jeu qui a un côté un petit peu forcément assez engagé, assez féministe, et du coup ça a une influence sur le ton en fait qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de jouer, donc c'est vrai que ça c'est pas mal.
Et puis le nombre de fins différentes lui donne quand même une rejouabilité.
Ouais, exact, et d'ailleurs il y a une anecdote assez marrante là-dessus, c'est que, enfin je suis... Sur le Twitter de la créatrice Bouyanaou, il y a une personne qui a dit qu'il faisait... Parce qu'en fait, à la fin du jeu, oui, ça j'ai oublié de le préciser, à la fin du jeu, une fois qu'on le finit, on a un mot de passe qu'on pourra réutiliser pour la suite, parce que en fait, même les choix qu'on a fait dans le premier jeu, on aura
le prochain qui vont sortir la suite.
D'accord.
Voilà, qui s'appellera Revolution 62. Je crois qu'ils ont prévu un spin-off aussi avant de faire la vraie suite. Et il y a une personne en fait sur Twitter qui a fait un Excel de tous les mots de passe qu'il a trouvé pour pouvoir rejouer, parce qu'en fait on peut rejouer avec ce mot de passe, on peut également rejouer toute la partie mais en mode démo, c'est-à-dire sans jouer, mais on rejoue toute l'histoire.
D'accord.
Donc la personne là en fait est en train d'essayer de stocker tous les mots de passe possibles pour pouvoir voir les 24 fins. Donc ça crée des trucs comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire à la base? Ouais, donc... je retrouve mon point. Ouais, il y a aussi un truc aussi, c'est que la créatrice a reçu plein de témoignages justement de mères de famille aussi, qui disaient que leur fille était devenue accro au jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment fait pour inclure un peu tout le monde. Il y a un autre point que je voulais aborder qui est parallèle au jeu, c'est la créatrice, donc Bouyanaou, a aussi un podcast qui est vraiment super super intéressant. Alors faut parler anglais.
Tu m'en avais parlé, celui-là.
C'est un podcast en anglais qui s'appelle Isometric et qui est animé par cette développeuse et aussi deux autres journalistes féminines américaines et un gars. Et le gars se fait bâcher à longueur d'émission, ça c'est ça qui est marrant, avec son consentement bien sûr. Et le podcast est vraiment super intéressant. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est à la fois très drôle parce qu'ils ont des blagues, ils s'envoient des vannes à longueur d'émission, mais ils peuvent toucher aussi des sujets très graves. Ben là, par exemple, ils ont passé le dernier épisode était à propos de cette sombre histoire de harcèlement de développeuses comme Zoé Quinn, qui s'en est pris plein la gueule, des insultes, des
je crois qu'elle s'est fait
pirater toutes ses informations personnelles, enfin, un truc vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'est intéressant de suivre ce podcast parce qu'il est vraiment, très très bien. Elle fait aussi pas mal de speech dans des conférences, genre elle en a fait un récemment à PAX Prime. Et c'est des confs qu'on retrouve sur YouTube et qui sont intéressantes à chercher parce qu'elle a vraiment un humour très très vachard et surtout au moment des questions-réponses, parce qu'il y a toujours forcément un mec qui essaye de la contredire, elle a toujours des arguments, elle a toujours une façon de les troller complètement qui est vraiment jubilatoire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce jeu. Voilà, donc c'est pas le jeu de l'année, mais c'est suffisamment attachant pour qu'on ait vraiment envie de connaître la suite.
Tu te rappelles le nom de la développeuse principale là, de la ligne?
C'est Bouyanaou, W-U.
Brilliant. De toute façon, je mettrai toutes les informations, tout sera noté.
C'est assez intéressant. Il y a aussi une version PlayStation 4 aussi qui est prévue, je crois. Okay.
Ah d'accord.
Une version PC, ça ira bien.
Donc j'aurai une PlayStation 4 dans 10 ans.
Voilà.
Ok, et bah écoute, merci beaucoup, c'était intéressant. Et puis ça, je trouve que ça regroupe un point de vue qui est un champ d'idées qui est large, quoi, puisque... vraiment l'aspect du jeu et puis tout ce que ça entoure au niveau du féminisme, au niveau des personnages féminins qui sont des problématiques un petit peu qui commencent à émerger dans le jeu vidéo, quoi.
Ouais. Et puis non, ce qui est, enfin, on a à la fois hâte de connaître la suite de l'histoire parce que ça se finit quand même assez de manière assez déprimante un peu, Mais en plus, on a vraiment envie de savoir ce qu'elles vont pouvoir faire maintenant qu'elles maîtrisent un peu plus leur sujet, qu'elles maîtrisent un peu plus le moteur Unreal. Je suis impatient de voir ce que ça va pouvoir donner avec des affinements, parce que c'est vrai que c'est un petit peu brut de décoffrage quand même pour le premier jeu. Quoi. Donc voilà.
Je volerai peut-être l'iPad de ma mère pour essayer.
Par contre, elles sont effectivement. C'est parce que elles sont en discussion pour la faire. Donc pour l'instant, il ne faut pas être trop pressé. Ouais,
l'avantage de Unreal, c'est que ça facilite un peu les portages.
Ouais, ça, je pense que ça devrait aller assez vite. Mais par contre, je me demande comment ils vont faire, parce que le jeu est quand même beaucoup lié au tactile, quand même. Sur la PS4, t'as le pad tactile sur la
souris, ça sera pas
sur possible. La manette, mais. La souris, ouais, ça devrait être possible, mais ça serait moins immédiat, quoi. Parce que les gestes tactiles sont vraiment liés aux actions.
La gesture et pas seulement...
C'est un petit peu... Ouais. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup. On va passer à la conclusion, du coup. Hein. Et
Jingle.
Le petit jingle. Non, on ne peut pas ne plus l'entendre, celui-là.
J'adore.
Bon, alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous? Péremptoire.
Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @péremptoire, comme ça se prononce. Et dans plein de trucs, je sais pas si, pour l'instant...
Bien sûr.
Il y a hors cadre, bien sûr, avec Grand Flag, mais faut qu'on bosse un petit peu. Il y a le Mitterrand qui est complètement...
Je suis complètement fan du nom Le Mitterrand.
Moi aussi, mais je suis moins fan de préparer les épisodes. Enfin, sinon, il y a aussi Quid Novi. Quand ça reprendra, je sais pas quand. Et puis, il y avait les éclaireurs, mais...
J'ai tout donné bien avant l'envie.
Voilà. J'ai tout donné.
Oh. C'est la chanson de merde de la télé. C'est bon.
Voilà, c'est tout.
Ben voilà, pour me retrouver sur Twitter, Randall Flag avec un underscore derrière, si l'entendre sur un péruvien ou je sais plus quoi.
Sur le hashtag. Sur le hashtag Jean Rouquet.
Pour me retrouver sur gribouillon.fr, parfois, un petit moment que j'ai pas bossé dessus, où je gribouille des trucs très moches. Et aussi dans le Quid Novi. Hein. Et aussi dans Hors Cadre. Quelle coïncidence. Et dans sur FreshPod. De potes. De podcast. On devrait retrouver aussi, j'espère, la nouvelle version des éclaireurs dessus. Ouais.
Oui, on fera du live un petit peu dessus. Ouais.
C'est dit, hein, moi je note.
Oui, on le fera. Juste que je me mette un petit peu en jambes. Et
parfois sur lebidule.org où j'écris deux, trois bafouilles, mais ça fait un petit moment qu'il faut que je m'y remette aussi.
Et la mise à feu.
Eh bien, moi, on me retrouve sur Twitter, donc c'est @zafeu.
Je viens de comprendre ton jeu de mots. Mais...
ouais, ça fait toujours ça. Hein.
Oui, ça fait toujours ça la première fois, c'est très dur. Alors, pour l'histoire, c'est un jeu de mots que j'avais lu dans un Achille Talon quand j'étais gamin.
Okay. J'aime beaucoup.
Voilà, il avait un ami, c'est juste dans une seule case, la mise à feu, ça m'avait fait rire.
Et il y a Bobby Labrouille qui a la misanthrope.
Aussi.
Oui. Alors, on me retrouve aussi et les surtout dans les prochains du web.
Évidemment,
bien sûr.
Oui. Mais ce podcast est disponible aussi sur
FreshPod. C'est à peu près tout.
Mais oui.
Mais évidemment qu'il est disponible sur FreshPod.
Ça va limite faire un peu mafia bientôt. Hein. Faut faire attention. Hein.
La mafia FreshPod.
Mais oui.
Podcast primé. Attention.
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Podcast.
J'ai voté pour vous.
Pour Radio Podcast Award.
Exactement.
Et toi, Steph, alors ?
Eh bien, moi, je suis Steph sur Twitter, donc STEPH. On me trouve également, évidemment, sur ce que c'est mon job sur clubic.com, parce que j'écris des tests et tout. Et aussi sur mon blog thebong.net, que je mets à jour de manière hebdomadaire tous les 6 mois.
C'est un très bon blog. Hein.
Oui, mais.
Mais hebdomadaire. Voilà. Tous les 6 mois. Non, t'as eu une période là un peu plus.
Ouais, mais voilà, c'est ça. En fait, il y a des périodes tous les 6 mois, je le mets à jour pendant 2 semaines en fait.
Le 14 juillet.
C'est un peu ça le concept. Voilà. Voilà.
Tu fais pas de podcast.
Mais bientôt.
Et non.
Ah.
Non, je participe.
Mais en plus, je sais qu'il a envie d'en faire.
Ah, mais c'est bien.
J'ai participé aussi la dernière fois, on refait le Mac aussi.
Mais bien, mais de toute façon, tu reviendras nous parler de choses.
Moi, absolument, de musique, de cinéma, de plein de choses.
En tout cas, vous retrouverez les liens de tout ce qui a été dit dans cette émission, ainsi que les comptes Twitter et blogs des invités. Alors, petit changement, ce sera sur le mini-site de Podcloud.
Les éclaireurs.
Le Podcloud de l'émission, parce qu'en fait... voilà, en fait, c'est ça, c'est leséclaireurs.podcloud.fr. Alors, les anciens épisodes seront encore disponibles sur le WordPress, leséclaireurs.podcast.wordpress.com. Et puis là, d'ici la semaine prochaine, tout va migrer sur Podcloud en même temps que l'émission sera disponible. Voilà, donc il faudra mettre à jour les flux RSS, les abonnements à iTunes. En tout cas, je vous informerai via le Twitter des éclaireurs.
Ça sera obligé.
Faudra que je m'abonne.
Eh oui. Voilà. En tout cas, bah, si vous voulez suivre l'actu du podcast, eh bah, c'est sur le compte Twitter @leséclaireurs, les_éclaireurs. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, des critiques, ou si vous avez envie de participer, enfin, en tout cas, vous n'hésitez pas à me contacter. Il y a aussi le mail, si vous êtes un peu timide. C'est leséclaireurspodcast@gmail.com.
Juste un truc, arrêtez de me mentionner en même temps que le compte des éclaireurs, je ne gère plus ce compte.
Voilà, notez-le bien.
Voilà.
Péremptoire, ne veut plus être associé à ça.
Je ne reconnais plus l'émission.
Voilà, et puis, ben, écoutez, moi, vous pourrez me retrouver sur Twitter, @anacolyte. Voilà, bonne soirée, et puis,
ciao.
Ben, au mois prochain.
Salut.
Salut.
Gros accident.